Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le roman était dédié à Eugène Delacroix, peintre, d'où la présence, sans doute, du dit Eugène Delacroix, absent du roman, comme interlocuteur de l'auteur, Honoré de Balzac, auteur lui-même absent du roman, dans l'adaptation qui suit de La fille aux yeux d'or. Les personnages principaux sont Paris, la ville, Henri de Marsay, Paquita, et, mais vous connaissez le roman alors, l'un des trois publié sous le titre Histoire des 13, les deux autres étant Ferragus et la duchesse de Langeais. L'immeuble pré-haussmanien est décrit de bas en haut, mais l'intérêt de l'intrigue est ailleurs, dans la passion inavouable pour l'époque. Nous voici donc amenés au troisième cercle de cet enfer qui peut-être un jour, écrit Balzac, aura son Dante. Le Dante du XIXe siècle, c'était lui, Balzac. Et voici donc l'histoire de deux yeux jaunes comme ceux des tigres. Un jaune d'or qui brille, de l'or vivant, de l'or qui pense, de l'or qui aime et veut absolument venir dans votre gousset. Première diffusion sur la chaîne France 3 Nationale, le 15 mai 1963.
La fille aux yeux d'or, par Marcel Schneider, d'après Honoré de Balzac, avec dans les principaux rôles Michel Auclair et Lolé Bellon, avec Daniel Hivernel, Renaud Marie, Sylvia Montfort et Lucien Barou. Réalisation Guy Delaunay.
Pourquoi suer sang et eau et chercher avec peine en barbarie ce que Paris nous prodigue à chaque tournant de rue? Regardez cette galerie d'Orléans. Il y a autant de parcs d'ombre et de lumière que dans les souks de Tunis, et bien plus de richesses enfouies dans les magasins que dans toutes les échoppes de l'Orient.
Et c'est vous, mon cher Delacroix, vous qui avez peint les femmes d'Alger, les chasses aux lions, les fantasias, c'est vous qui nous vantez le pittoresque de Paris.
Mais je découvre Paris chaque jour un peu plus. Et moins son pittoresque que sa beauté, moins sa beauté que sa grandeur, moins sa grandeur que son mystère.
Et je me demandais où vous alliez vous arrêter.
Eh bien, continuez donc, Balzac.
Pour moi, Paris est un mirage. Tout y semble artificiel, même la lumière. Comme un vampire, Paris absorbe les formes vives de la campagne et le transforme en luxe et en beauté. Mais en luxe pervers et en beauté monstrueuse.
Oui, Paris séduit, capture et tue. Mais toutes les capitales n'en font-elles pas autant?
Oh non. Non, Berlin endort, Vienne entraîne dans un mouvement de valse, Madrid de charme sans dépraver l'esprit. Il n'y a que Londres qui concurrence Paris.
Oui, Londres, ses brouillards, ses parcs, ses entrepôts et leur population grouillante.
Et Paris, ses salons, ses promenades, ses lieux de plaisir avec les filles faciles et les mauvais garçons.
Désormais, grâce à vous, Balzac, je ne vais plus voyager. Je me promènerai à travers notre chère ville, depuis ces quartiers où les artisans vivent entassés comme dans des ruches, jusqu'à ces élégants faubourgs où les lilas se rejoignent de jardin en jardin au point de ne former qu'un seul bouquet.
N'oubliez pas les quais de la Seine. Avez-vous remarqué comme le ciel s'agrandit quand on s'appuie sur une de ces rampes à bouquinistes?
Et du pont Neuf, quand on regarde le soleil se coucher derrière Chaillot, n'y a-t-il pas toutes les nuances du monde?
Oh, je n'en distingue pas autant que vous, Delacroix. Non, je confonds le zinzolin avec le violet et le pourpre avec le vineux. D'ailleurs, quand irai-je flâner? Le travail, toujours ce bourreau de travail. Je mène une vie d'enfer.
Une raison de plus pour vous promener.
Oh, et si on me reconnaît? Vous ne savez pas quel genre de gens sont les créanciers, les libraires-éditeurs.
Je ne connais que les critiques enflées de mépris et les visages de bois des amateurs. Non, franchement, que voyez-vous en ce moment sous nos yeux?
Ici? Rien.
Comment ça, rien?
Je veux dire que je vois les jardins du Palais-Royal, mais que cela ne signifie rien pour moi. Je travaille à un roman qui se passe dans l'île de la Cité. Le reste n'existe pas pour le moment.
Ainsi, vous ne regardez rien?
Jamais. Quand trouverais-je le temps d'écrire si je me mettais en tête d'observer? Je ne suis pas réaliste, moi.
Moi non plus, grâce à Dieu. Quel artiste digne de ce nom accepterait de reproduire la réalité? C'est bon pour les faiseurs d'enseignes et d'ex-voto.
Vous êtes le plus grand de nos romantiques.
Non, laissez ce nom à Géricault et à ceux qu'il pille, à Boulanger, à Deveyrias, à Joanneau. Moi, c'est la tradition que je vénère. Celle de Rubens, celle du Tintoret.
Mais en somme, vous êtes le baroque de notre siècle.
Et vous, Balzac, ne serez-vous pas le baroque de notre littérature?
Oui, quand j'aurai trouvé l'idée capitale de ma vie, oui, alors je dirai à tous... Regardez-moi, je suis tout bonnement en train de devenir un génie.
Je suis sûr que vous la trouverez.
Nous sommes faits pour nous entendre, Delacroix. Si vous ne peignez pas ce que vos yeux contemplent, moi non plus je ne décris pas la banalité quotidienne, non parce qu'elle est banalité, mais parce qu'elle est dépourvue de signification. Je la trouve fade, tiède, sans vie. Comme vous, je suis un visionnaire. Dans mes livres, je voudrais montrer Paris, non tel que les yeux le voient. Décor superbe sans doute, brillamment éclairé, rassurant, normal, mais trop normal, trop éclairé pour être vrai. Tandis que le Paris qui se révèle à l'œil épouvanté du visionnaire...
Un Paris obscur, nocturne, fantôme, insaisissable, d'autant plus puissant qu'il est plus secret et qu'il vient dangereusement s'emboîter dans l'autre, superposer sa réalité à l'apparence de l'autre.
Oui, toutes les apparences ne sont que trompe-l'œil. Tous s'y laissent prendre, bien sûr. Seul, le héros tout-puissant, le chef de la bande des traits...
Ferragus. J'ai lu votre roman. Ferragus n'a ni visage, ni signalement. Les balles ne l'entament pas. Les couteaux, les poisons restent sur lui sans effet. Il est partout à la fois. Il n'est nulle part.
C'est le héros moderne de Paris que je vois. Voilà le mythe que je veux décrire. Il me faut faire le Paris, le principal personnage d'une longue suite de romans où se retrouveraient tous mes personnages.
Mais la voilà, votre idée géniale. Créer le mythe de Paris, la beauté épique du monde moderne.
Voulez-vous m'y aider, mon cher Delacroix?
Mais en quoi faisant?
Eh bien, en me prêtant attention. Non, comprenez-moi. Je voudrais que vous ne regardiez pas mes personnages autrement que les gens que vous croisez dans la rue. Que vous n'alliez pas consulter tel ou tel docteur, mais Bianchon. Et que vous ne songiez pas à un usurier sans dire aussitôt « Ah, Gobseck !»
Mais c'est de l'occupation mentale que vous réclamez là. Il faut magnétiser les lecteurs.
Mais vous avez lâché le mot. Je veux magnétiser, fasciner, hanter les esprits. Je veux imposer mon obsession aux lecteurs. Paris me hante. Aussi bien les égouts et les catacombes que la préfecture de police, le Louvre, Notre-Dame et la ribambelle des ministères.
Mais si vous répandez votre fluide magique sur tout, plus rien ne sera rassurant.
Ce sera mon triomphe. Comme une épidémie, le mythique aura contaminé le réel. Voyez-vous, Delacroix, tous les Parisiens portent des masques. Masques de faiblesse, de force, de misère, de joie, d'hypocrisie. Tous exténués, tous marqués des signes d'une haletante avidité. Que veut-il donc? De l'or ou du plaisir?
Ils veulent de l'or et du plaisir, ou plutôt de l'or pour avoir du plaisir.
C'est pour ça que Paris est un enfer. Non, prenez ce mot à la lettre. Là, tout fume, tout brûle, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume toujours. Cette nature sociale, toujours en fusion, semble se dire, après chaque œuvre finie, à la prochaine.
C'est pourquoi le Parisien est indifférent à tout. Il murmure de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, rejette tout avec insouciance, ses rois, ses conquêtes, ses chapeaux, ses habits et sa fortune. Tout y est toléré, le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra.
Vous convenez toujours à tout le monde et vous ne faites défaut à personne. Qui donc domine dans ce pays sans mœurs, sans croyance, sans aucun sentiment? L'or et le plaisir. On n'a qu'un vrai parent, c'est le billet de 1000 francs, un véritable ami, le monde piété.
Mais vous regardez Paris comme Dante regardait les enfers.
Absolument. Mais alors que Dante s'enfonçait de cercle en cercle vers les profondeurs de la terre, moi, de sphère en sphère, je vous conduis de la terre gémissante au paradis. Connaissez-vous cette tour de l'ancienne Babylone, dont chaque étage représente un ordre cosmique? Donnez-moi la main si vous craignez le vertige. Nous allons monter une suite d'escaliers. À chaque palier, nous nous arrêterons. Ce ne sera pas pour contempler les astres, mais les différentes castes de ce bas monde, les divers visages de ce Paris où nous vivons, êtes-vous d'accord?
Voici ma main.
Bon. Nous n'avons guère à monter jusqu'au premier palier. Nous sommes chez l'ouvrier, chez le prolétaire. Cette sorte de peuple compte 300 000 individus.
Ces hommes qui devraient économiser le principe de leur vie outrepassent leur force au labeur, attellent leurs femmes à quelques machines, usent leurs enfants et les clouent à un rouage. Pour eux, pendant 5 jours, aucun répit, aucun repos. Veiller, pâtir, travailler, jurer, jeûner, marcher. Tous sont excédés pour gagner cet or qui les fascine. Pendant 2 jours, on fait la fête et l'on mange le pain de l'avenir, la soupe de la semaine, les robes de la femme, les langes de l'enfant tout en haillons. Sans les cabarets, le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis? Heureusement, le mardi, ce peuple cuve son plaisir, n'a plus le sou et retourne au travail, au pain sec, à la meule. Les cabarets font une ceinture de boue à Paris, ceinture de la plus impudique des Vénus, où se perd comme au jeu la fortune périodique de ce peuple, aussi féroce au plaisir qu'il est tranquille au travail.
Montons vite au second palier que je respire un peu.
Oh, ça ne sentira pas meilleur. Le petit bourgeois résume tout. C'est le mouvement fait homme, l'espace incarné, le protée de la civilisation. Il trime, il s'agite, il épargne, il lésine et rogne surtout pour s'acheter une boutique ou un pavillon de banlieue. Il spécule, joue à la loterie, fait des économies de bout de ficelle pour se donner des joies. Mais en dehors de son travail, il ne sait rien faire, il n'existe pas. Le travail est pour lui une fuite, un asile, sa raison d'être, sa religion et son Dieu.
Les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers et les derniers commis, tout ce qui accapare les denrées, emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires, aspire après le bénéfice, escompte les effets, encaisse toutes les valeurs, emballe en détail Paris tout entier, le voiture, épie les vices de l'âge mûr, en pressure les maladies, eh bien tous ces gens, sans s'adonner à l'alcool comme les ouvriers, ni se vautrer dans la fange des barrières, excèdent aussi leur force. Pour avoir de l'or et du plaisir, il faut dévorer le temps. Trouver plus de 24 heures dans le jour et la nuit, s'énerver, se tuer sans répit. L'ouvrier meurt à l'hôpital. Le petit bourgeois persiste à vivre et vit, mais crétinisé. Vous le rencontrez, la face usée, plate, vieille, sans lueur aux yeux, se traînant d'un air hébété sur le boulevard. Que voulait le bourgeois? Le briquet du garde national, un immuable pot-au-feu, une place décente au Père-Lachaise. À 65 ans, il obtient la croix de la Légion d'honneur et le père de son gendre, maire d'un arrondissement, l'invite à ses soirées. Chaque sphère jette tout son frais dans la sphère supérieure.
Montons encore un étage. Nous atteignons le troisième.
Oh, gardez votre mouchoir sous votre nez. La puanteur augmente. Nous voilà chez des gens qui vivent en infectes études, dans des salles d'audience empestées, dans de petits cabinets grillés, tout courbés sous le poids des affaires, levés dès l'aurore pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout gagner ou ne rien perdre, pour faire pendre ou acquitter un homme.
Dans le ventre de Paris, se remue et s'agite par un âcre et fieux le mouvement intestinal, la foule des avoués, médecins, notaires, gens d'affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats. La vanité résume toutes leurs passions. Il s'agit, après une vie d'angoisse et de manœuvres continuelles, de passer au Conseil d'État, d'être nommé pair de France et de toiser la noblesse. Tous sont laminés par les affaires et s'ils arrivent à leur but, ils y arrivent tués, ratatinés qu'ils sont dans la fournaise de l'or. Leur débauche est secrète, effrayante, car ils peuvent disposer de tout, sauf de leurs corps impuissants. Que leur reste-t-il ? Sinon l'avarice et l'ambition sociale.
Mais où trouverons-nous un peu d'air pur, de plaisir innocent? Où Rousseau pourra-t-il mener son Émile?
Nulle part à Paris, pas même dans les étages supérieurs. Nous voici dans notre monde, Delacroix, celui des écrivains, des peintres, des musiciens, des comédiens. Que de visages naturellement beaux, brisés, fatigués, sinueux. On ne résiste pas à la concurrence, aux rivalités, à la calomnie. Il faut sans cesse demeurer sur la brèche, armé jusqu'aux dents. Et dans cette tension inhumaine, continuer à produire des œuvres admirables.
Oui, la cruauté de notre condition en apparence si brillante m'apparaît aujourd'hui.
Excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lassés par un génie dévoreur, affamés de plaisir, les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. Les uns désespérés roulent dans les abîmes du vice, Les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escompté trop tôt leur avenir. Peu de ces figures primitivement sublimes restent belles. Quelle puissance les détruit ? La passion. Toute passion à Paris se résout par deux termes. Or et plaisir.
Et maintenant, la cinquième sphère. Ne sentez-vous pas l'air et l'espace purifiés ? Ici, ni travaux, ni peine. La tournoyante volute de l'or a gagné les sommités.
La naissance et la fortune vous délivrent de tout souci. Ainsi, cet or qui vient du fond des boutiques, du sein des comptoirs et des grandes officines, cet or sous forme de dot ou de succession, jaillit enfin vers la gent aristocratique où il va reluire, s'étaler, ruisseler.
Oui, l'or n'a bon air et bonne odeur que chez les nobles qui le dilapident. Quand on le gagne soi-même, il n'y a pas de manière élégante de le dépenser.
Mais alors, pourquoi ne vois-je nulle part de sourire ?
On s'ennuie trop, on n'a rien à faire, rien à penser, rien à aimer.
Les riches rencontrent à Paris de l'esprit tout fait, la science toute mâchée, des opinions toutes formulées, qui les dispensent d'avoir esprit, science ou opinion. Dans ce monde, on est avare de son temps à force d'en perdre. Les embrassades couvrent une profonde indifférence et la politesse, un mépris continuel. Cette vie creuse, cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais, cet ennui permanent, cette inanité d'esprit, de cœur et de cervelle, cette lassitude du grand raout parisien se reproduit sur les traits et confectionne ces visages de carton, ces rides prématurées, cette physionomie des riches où grimace l'impuissance, où se reflète l'or, d'où l'intelligence a fui.
Ce que vous m'avez montré me désespère, Balzac. La vision des peintres, même chez Goya, n'atteint pas à tant de laideur morale. Tout ce monde est épuisé, exténué par la recherche de l'or, glacé, exsangue. Je n'y vois que larves et que fantômes. N'existe-t-il plus de cœur ingénu, d'âme fervente, d'esprit généreux ? Des hommes qui ne comptent pas leurs écus, des femmes qui ne convoitent pas les bijoux des autres. Des gens qui vivent enfin une vie de plénitude et de vraie richesse.
C'est un article introuvable à Paris. Parfois, dans la haute aristocratie, se voient clairsemer quelques ravissants visages de jeunes gens, fruits d'un sang, d'une éducation et de mœurs tout à fait exceptionnels. Ils ont tout, la fortune, le titre, la beauté, l'esprit. Ils forment la jeunesse dorée de la cinquième sphère, les idoles du monde élégant.
Mais ont-ils une âme ?
Ah, ça, mon cher. C'est ce que nous allons voir. Tenez, regardez qui se promène dans la grande allée des Tuileries.
Lequel ? Ce jeune homme aux cheveux noirs si touffus, à la taille si fine ?
Oui, c'est Henri de Marsay, le fils naturel de Lord Dudley de la célèbre marquise de Vordac. Suivons-le. Vous apprendrez ce que vous voulez savoir.
Oh, ah, par exemple, que fais-tu aux Tuileries un dimanche?
Mon petit Manerville, tu poses trop de questions. Si tu t'étonnes de tout, tu ne seras jamais un tigre. Pas même un dandy.
Ah, pourtant, Marseille, tu m'as mis à bonne école.
Mais du maître à l'apprenti, quelle distance. Je crains que tu ne demeures une sorte de prix d'excellence sociale. Un de ces bons jeunes gens de province, édifiant sous tous les rapports, qui infestent l'administration, la magistrature, la cour et qui aplatissent le pays.
Mais pour que je devienne une ganache, il n'y a qu'un pas.
Attention de ne pas le franchir. Si tu veux décrocher un prix de vertu, ce n'est pas à Henri de Marsay qu'il faut t'adresser.
Compris. Je devais donc te dire tout à l'heure, Henri, y a-t-il du poisson dans la nasse ?
J'aurais cligné de l'œil et tu m'aurais épargné cette plaisante mercuriale. Surtout, ne prends pas cet air de chien battu. Ta cravate est sublime.
Hein ? Le ramage en est assez galant. Rondoni les reçoit directement des Indes.
Ne donne pas non plus d'explication. On dirait que tu fais l'article. Seriez-vous un calicot, marquis ? Tu ne dois rien répondre quand on te complimente sur une bagatelle ou dire comme les Espagnols, elle vous plaît, prenez-la.
Ah, comme tu vois juste, Henri. Un jour, tu seras ministre des Affaires étrangères. Ou plutôt, tu seras ce que tu voudras être.
Oui, mais je me garderai comme de la peste d'être autre chose qu'un homme à la mode. Un homme qui sait parler de chevaux et de femmes, choisir ses gants et son argenterie, donner le ton à la cour et faire fureur à Paris. Les grands emplois, l'armée, les chambres. Oh, fille, mon cher, fille donc. Laissons les nièces attabler devant le festin et qu'ils en crèvent d'indigestion. Nous, nous sommes les ascètes de l'élégance.
Oh, 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 la belle formule. Je la replacerai si tu permets, Henri.
Tu peux glaner les traits que je laisse tomber, bien que dans ta bouche, ils ne fassent pas le même effet. Mais enfin, mon bon, si le cœur t'en dit, imite-moi, pille-moi, je ne compte jamais ce que j'ai en poche. À propos, sais-tu ce qu'a répondu Mimi Bâton, notre petit bout de chanteuse? Comment s'étonnait devant elle qu'elle n'aima que les hommes auxquels elle arrivait à la ceinture? Elle répondit froidement, ça suffit bien.
Ah, voilà ce qui s'appelle de l'esprit.
Non, simplement du bon sens. Nos duchesses pourraient en prendre de la graine. L'autre jour, la duchesse de Maufrigneuse égare son amant dans un rout. « Cherchez-le sous la table, dit-elle, il s'y cache quelquefois. » On découvre en effet le malheureux sous le tapis d'une desserte.
« Il était ivre ?»«
Non, pas du tout, il faisait une niche à la duchesse. Il se prend parfois pour un chien.
»« Ah, cette fois, c'est de l'esprit. »«
Tu crois ? Je ne m'en suis pas aperçu. »« Alors, maintenant, en chasse. »«
Ah, et quel genre de gibier ? Poids ou plume ?»«
Un sphinx, un phénix, une sirène. »«
Tu me mets sur des charbons ardents. »
Je puis bien te conter mon aventure sans compromettre mon idole. Tu penses bien qu'une femme qui vient aux Tuileries le dimanche n'a aucune valeur, aristocratiquement parlant. Oh, mais tais-toi donc, tu ris trop, tu vas faire croire que nous avons trop bu au déjeuner. Donc jeudi dernier, je me promenais ici sur la terrasse des Feuillants sans penser à rien du tout. Tout à coup, je me trouve nez à nez avec une femme qui, si elle ne m'a pas sauté au cou, fut arrêtée moins par respect humain que par la stupeur. Elle me regardait comme un dieu. Sa physionomie semblait me dire « Quoi, te voilà mon idéal, mes rêves du matin et du soir ? Prends-moi, je suis à toi, etc., etc. » Bon, je dis en moi-même, encore une. Tu sais que j'ai l'habitude, Manerville, je les fascine, ces femmes, je les magnétise et ça ne me fait ni chaud ni froid. Et cette fois-là, pourtant, je ressens quelque chose. J'examine la créature, ce n'est pas une dame, bien entendu, mais pas une fille vulgaire non plus. Ravissante. La plus ravissante variété féminine que j'ai vue. Je m'y connais, mon bon Paul. Eh bien, cette fille-là, elle mérite que je la regarde. Ce sont ses yeux, surtout, qui me charment. Des yeux jaunes, comme ceux des tigres. Un jaune d'or qui brille, de l'or vivant. De l'or qui aime, et qui veut absolument venir dans notre gousset.
Nous ne connaissons que cela, mon cher. C'est la fille aux yeux d'or. Nous lui avons donné ce nom-là. Je l'ai déjà vue ici, mais avec une femme qui vaut 100 000 fois mieux qu'elle.
Mais tais-toi, Paul. Qui pourrait surpasser cette chatte adorable avec ses cheveux cendrés, son duvet sur les joues et ses yeux de miracle?
Si tu connaissais l'autre, mon cher Marseille. Elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent. Des lèvres où le baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et fraîches. Un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. Mais ma parole d'honneur, Henri, elle te ressemble.
Tu la flattes.
On dirait une corvette qui se rue sur un vaisseau marchand, le mord et le coule bas en deux temps.
Mon bon Paul, tu m'assommes avec cette femme que je n'ai point vue. Que veux-tu qu'elle me fasse? C'est l'autre, la blonde, la seule, la vraie qu'il me faut. Elle est l'original de cette délirante peinture antique appelée la femme caressant une chimère. Eh bien, mon inconnue est à la fois cette femme qui caresse et la chimère caressée. Elle est un monde de sensualité indolente. Elle est comme une volupté qui dort. Je suis revenu le lendemain, elle aussi. Eh bien, elle s'est retournée. Elle m'a vu. Elle m'a de nouveau adoré. Quel regard ont lancé ses yeux d'or. Si tu avais vu la fureur de la duègne, une hyène à laquelle un jaloux a passé une robe, une vraie diablesse à tête de mort. J'ai essayé de frôler la robe de la séduisante fille aux cheveux cendrés, mais quand nous allions nous croiser sur la promenade, chaque fois, l'horrible duègne s'arrangeait pour me séparer de tout ce qui me charme aujourd'hui. Toi, me dis-je en moi-même, si l'on ne peut pas te faire capituler, avec un peu d'opium, on t'endormira. Nous connaissons la mythologie et la fable d'Argus.
La voilà, Henri. La voilà. Tout le monde se retourne pour la voir. Comme ses yeux brillent. Des yeux d'or, vraiment. Dieu, elle rougit. Elle ferme les yeux en passant près de toi. Et tu prétends qu'elle te remarque.
Oui, elle m'aime. Tiens, regarde comme elle se retourne et me sourit. La duègne a beau l'entraîner vers la grille de la rue Castiglione, elle fait semblant de rattacher sa chaussure. Me sourit encore. Et me lance un de ses regards.
Ça ne signifie pas grand-chose.
Et cette main qu'elle m'a serrée avec force en passant, ça ne signifie rien non plus?
Je ne m'en étais pas aperçu.
Tu vis dans les nuages, Paul. Et tu n'as pas vu non plus, je présume, la ligne de son cou. Sa taille cambrée, ses pieds bien attachés, si minces, si recourbés qu'en imagination, il me prépare mille voluptés. Et tu n'as pas vu non plus ses chaussures élégantes et sa robe qui vient de la meilleure maison.
Ah, je vois surtout que tu en es fou.
Oui, je délire, mais décidément j'aurai cette fille pour maîtresse ou je ne suis plus Marseille. Tiens, elle monte dans son coupé. Les deux laquais referment la porte. Elle s'arrange pour être placée où il faut. Oh, elle agite son mouchoir. Elle me fait signe.
Tout le monde la regarde.
Et qu'importe. Est-ce que je ne vaux pas le monde? Il faut savoir où elle habite. Où est donc Laurent?
À vos ordres, monsieur le comte.
Laurent saute dans un fiacre. Tiens, en voilà un qui amène du monde. Prends-le et suis le coupé qui s'en va. Vois dans quelle rue, dans quelle maison il entrera. Pour le reste, je te fais confiance. La fille aux yeux d'or. N'oublie pas, tu m'as compris?
Fort bien, monsieur. Je suis né pour l'intrigue.
C'est ce que nous verrons, gredin. Ne perds pas une minute. Pour l'argent, je te donne carte blanche.
Comme d'habitude. Allez, monsieur, vous saurez qui est la fille aux yeux d'or.
Eh bien, l'ami, que dis-tu de ce chablis, de ces douzaines d'huîtres et de ce filet sauté aux champignons que je t'avais promis?
Je dis que tout ça est de première et que cette auberge qui s'appelle le Puits sans vin mérite bien mal son nom. Oh, quel bouquet à ce chablis et ses marraines, oh, d'une fraîcheur.
Et tout cela, estimable facteur, saura-t-il te délier la langue?
Oh, pour sûr. Aussi vrai que je m'appelle Moineau. Mon nom s'écrit comme un moineau, M-O-I-N-O-T, enfin tu vois.
Je vois, je vois. Il faut avoir de l'orthographe pour porter des lettres.
Hé, dame. Sinon, comment discerner les enveloppes? J'ai le flair, moi. Dis-toi bien que pas un moment, je n'ai donné dans le panneau. Ah. Non, deux fois. M'as-tu bien regardé, Laurent?
Je vois un homme des plus honorables.
Pour sûr, mais plus malin que tu ne crois. Quand tu m'as déclaré tout à l'heure que tu devais remettre ce paquet à la marquise, j'ai tout de suite compris que tu n'étais pas plus commissionnaire que mes chaussettes et qu'il y avait anguille sous roche.
Alors, ma blouse d'Auvergnat, non, aucun effet.
Non, pas plus la blouse que la mine. Tu es trop déluré pour un Auvergnat.
Brave moineau. Encore un verre de Chablis?
Oh, mais c'est pas de refus. À force d'arpenter les rues de Paris, cette poussière, cette odeur de crottin, ça vous a soif.
Donc, la fille aux yeux d'or n'est pas la marquise?
Non. Elle habite le bel hôtel qui appartient à Don Hijos, marquis de San Real. La marquise, pour le moment, est à Londres. Et notre gibier s'appelle... Tire cette lettre de ma boîte.
S'appelle Mademoiselle Paquita Valdès, hôtel de San Real, rue Saint-Lazare, Paris. Le timbre indique Londres et l'écriture une femme.
Oui, c'est une lettre de la marquise. J'en remets une chaque jour.
Puis-je compter sur toi, moineau?
Ah, parole d'honneur. Aussi vrai que je demeure rue des Trois Frères, numéro 11, au 5e, que j'ai une femme et 4 enfants. Si ma conscience...
Laisse ta conscience en repos, on ne la violera pas. Donc, cette mademoiselle Valdès est sans doute la maîtresse du marquis.
Ouais. Un cadavre espagnol de 80 ans. Lui seul peut prendre des précautions pareilles. Oh, mais c'est qu'on n'entre pas comme ça dans l'hôtel. Foi de facteur, depuis 10 ans que j'exerce à Paris, je n'ai jamais vu un système de porte pareil.
Quoi? Il faut un mot d'ordre?
Tu l'as dit, Bouffi. Un mot d'ordre. Et l'hôtel se trouve entre cour et jardin pour éviter tout aller et venu avec une autre maison. Le Suisse est un vieil espagnol qui vous baragouine on ne sait quoi et qui vous dévisage comme Vidocq. Supposons ce Cerbère gagné à force d'or, tu rencontrerais dans le vestibule un majordome entouré de laquais. Un sinistre farceur encore plus bourru que n'est le Suisse.
Et ce n'est pas tout?
Que non, Laurent. Que non. Si quelqu'un franchit la porte cochère, le majordome l'attend sous le péristyle et lui fait subir un interrogatoire en règle. Ils m'ont fait ça à moi. Simple facteur. Ils m'ont pris pour un hémisphère déguisé.
Un hémisphère. Oh, le joli coq-à-l'âne. Encore un verre, inestimable hémisphère.
Avec plaisir. Bon, mais supposez tous ces gens empoisonnés ou corrompus, il y aurait encore la duègne, Doña Concha Maria Alva, qui cache la fille aux yeux d'or sous ses jupes. On dirait les deux femmes cousues ensemble.
Mais je savais tout ça. Et la fruitière d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit dans les jardins des chiens dressés à se jeter sur tous ceux qui oseraient s'approcher.
C'est vrai. Le portier de monsieur le baron de Lucingen, dont le jardin touche par en haut à celui de San Real, me l'a confirmé.
Le baron de Nucingen, dis-tu? Mais c'est l'ami de mon maître. Nous sommes sauvés.
Si ton maître s'est amouraché de la fille aux yeux d'or, il s'inflige un fameux travail. Moi, je le lui déconseillerais, tout maraud que je suis.
Tu ne connais pas mon maître, le comte de Marseille. C'est un fameux lapin. Toutes les femmes se pendent à son cou. Il n'a qu'à choisir et elles tournent de l'œil dès qu'il les regarde.
C'est idiot possible.
C'est que nous connaissons l'art de séduire, nous. Si tu savais quelle taille il a, quelle peau, quelle beauté. Moi, qui le baigne et le savonne et le frictionne et le parfume tous les matins pendant des heures...
Pendant des heures. Oh, tu rigoles, Laurent.
De 2 à 3 heures, sa toilette ne dure pas moins. Mais ensuite, nous sommes fin prêts pour le combat.
Oui, mais tout ce bichonnage ne nous fait pas pénétrer dans l'hôtel.
Ah, nous y atteindrons en ballon.
Ah, bah tu te moques de moi, l'ami.
Non, nous avons affaire à un ennemi secret, aussi dangereux qu'habile, à un serpent qui se cache. Il va falloir jouer serré. Arlequin, Frontin et Figaro ne sont pas de trop pour me secourir.
Mais je connais pas ces gens-là.
Il n'importe, honnête moineau. Mais il importe qu'avec ces pièces d'or que t'octroie mon maître, le comte de Marseille est généreux, ne l'oublie pas, facteur. Tu glisses cette lettre dans une lettre en provenance de Londres dont on ne se méfie pas.
Mais il faudra rompre le cachet, trouver la même cire, imiter le cachet.
Depuis quand obtiendrait-on le paradis sans se donner de peine?
Mais le secret professionnel...
Depuis quand s'enrichirait-on sans tremper dans quelques friponneries? Celle que je te propose ne noircirait pas un enfant de cœur. Tu ne détruis pas la lettre de la marquise. Tu ne violes pas le secret de la correspondance. Tu ajoutes simplement un feuillet à la missive première. Tu augmentes ainsi le plaisir de Mademoiselle Paquita Valdès, qui, au lieu d'un correspondant, en trouve 2 dans le même pli. Et du même coup, tu achètes un bonnet à ta femme, tu nippes tes enfants, et il t'en reste assez pour t'acheter quelques mignonnes sous les galeries du Palais Royal.
Oh, l'ami, l'homme qui pense à tout, et même à ma famille. Bien sûr que je vais servir ton maître.
Tiens-toi compagnie avec cette bouteille. Je rejoins monsieur le comte qui m'attend dans son coupé. Il écrit la lettre et le tour est joué. Nous aurons Paquita. Monsieur, nous aurons Paquita.
Drôle. Je te condamne à la duègne si tu pousses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une femme avant que je ne l'aie eue. Quel rapport me fais-tu, vaurien?
La fille aux yeux d'or s'appelle Paquita Valdès. Elle est tenue sous triple clé dans l'hôtel San Real. Inutile de forcer la porte ni de soudoyer les gens. Des étrangers, des bourrus, des affreux.
Mais tu es une bête. À quoi bon entrer dans l'hôtel pour avoir Paquita, du moment que Paquita peut en sortir?
Mais monsieur... Et la duègne?
Mais on la chambrera quelques jours, ta duègne. L'opium est-il fait pour les chiens?
Vive Dieu! Quelle ingéniosité! Oh, monsieur le comte, je vous révère, je vous admire, je vous idolâtre. Mais
calme-toi, Laurent, et ne me baisse pas la main avec cette violence. Pourquoi souris-tu?
C'est que j'ai gardé le meilleur pour la bonne bouche. Le jardin de l'hôtel San Real touche à celui de l'hôtel Nucingen.
Et le facteur Moineau, homme estimable qui a déjà flairé votre or, glissera dans le courrier de Mademoiselle Valdès toutes les lettres qu'on voudra. Il attend votre bon plaisir au puissant vin.
Ouf, je respire. Voilà mon salut assuré. Le portier du baron Nucingen se ferait couper en hachis pour me plaire. Et ce facteur, dis-tu ?
S'engage à faire parvenir vos missives.
Mais le cachet, la cire ?
Je m'en charge, sans appartenir à la police. On a quand même ces petits trucs.
Je m'en remets à toi, fripon. Vite, une écritoire, du papier et de l'imagination. Bien. Voyons ça. Il s'agit de bien tourner les phrases. Cher Paquita, je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspirée. Si pour mon bonheur vous la partagez, sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous. Je me nomme Adolphe de Gouges. Oui, mieux vaut me travestir, on ne sait jamais ce qui passe par la tête de ces charmantes écervelées. Donc, allons-y pour Adolphe de Gouges. Un drôle de nom, en vérité. Et je demeure rue de l'Université, numéro 54. Si vous ne disposez pas de papier ni de plume, je le saurai par votre silence. Si vous ne jetez pas de lettres par-dessus le mur de votre jardin dans celui du baron de Nucingen, où l'on attendra toute la journée, un homme vous glissera au bout d'une corde deux flacons après-demain à 10 heures du matin. Soyez à vous promener vers ce moment-là. L'un des deux flacons contiendra de l'opium pour endormir votre Argus. Il suffira de lui en donner 6 gouttes. L'autre contiendra de l'encre. Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est uni. Tous deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset. Tout ce que j'ai fait déjà pour correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime. Si vous en doutiez, je vous avoue que pour obtenir un rendez-vous d'une heure, je donnerai ma vie. Signons maintenant avec un beau paraphe. Adolphe. Les pauvres créatures, dire qu'elles croient des niaiseries pareilles. Mais après tout, elles ont bien raison. Quel cas ferions-nous d'une femme qui ne se laisserait pas séduire par une lettre d'amour aussi bien troussée? Tiens, Laurent, remets ce papier au moineau. Compte-lui cet argent, maquille les cachets et surtout fais vite. Je languis, je me meurs. Le temps qui passe est un bourreau pour les amants. Non, non, ne t'en va pas. Refais-moi d'abord cette boucle qui pend comme une oreille de coquère. Suis-je beau?
Oh, monsieur le comte.
Tu as raison, on ne peut pas trouver mieux à Paris. Eh bien, maintenant tu peux partir. Dépêche-toi donc, Lambin!
Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler à vous-même en personne.
À quoi ressemble-t-il ?
À un orang-outan.
Quoi ?
Ses bras traînent par terre, sa peau est faite de chocolat délayé, et ses yeux sont comme ceux d'un oiseau de proie, fixe, dénué de cils et barbouillé d'encre bleue.
Diable ! Je brûle de voir une figure pareille.
Le voici, monsieur le comte. Je reste près de la porte, on ne sait jamais.
J'ai ordre de vous parler à vous seul, monsieur.
Laisse-nous, Laurent. Je commence à deviner qui m'envoie cet étrange émissaire.
Monsieur, voici d'abord certaines lettres que vous devez reconnaître. Je vous la rends.
Je la reconnais, en effet. Et pour vous tranquilliser, tenez, je la jette au feu.
C'est ce que désirait ma maîtresse. Maintenant, je vous récite la fin de ma mission. Il faut que vous vous trouviez demain soir à 10h30, boulevard Montmartre, près du café. Vous y verrez une voiture où vous montrez en disant au cocher le mot cortejo, ce qui veut dire amant en espagnol. Vous me trouverez dans le fond de la voiture.
Entendu. Est-ce là toutes les recommandations?
Ma maîtresse vous supplie de mettre la plus grande prudence dans vos actions, parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs sans qu'aucune puissance au monde puisse les arrêter.
Tant mieux, enfin voici du péril. Je me sens devenir un héros de roman. Vous voyez, de romans noirs, comme ceux de Monsieur de Balzac. Dites à votre maîtresse que j'observerai point par point les consignes. Cortejo, je m'en souviendrai. Tenez, voici quelques pièces pour votre ambassade.
Non, monsieur. C'est ma maîtresse que je sers, non point vous. Je lui appartiens sans réserve. C'est à elle de me donner ce qu'elle veut. Et la mort, si elle le veut. Je vous salue humblement, monsieur.
Ah, voici une aventure qui promet. Un esclave noir, un mot d'ordre, des poignards affilés. On ne saurait mieux faire. Ça nous change de nos fades fornications avec les dames du grand monde. Vraiment, les femmes savent faire valoir le don de leur petite personne. On y pensera, Paquita. On y pensera, ma fille. Mais le diable m'emporte maintenant que je suis sûr de t'avoir à ma merci, tu perds de ton piquant. L'équipée ne m'amuse plus, Paquita. Tes yeux d'or ne sont plus que de vulgaires boules jaunes. Oh, quel ennui d'être couvert de femmes. Tant pis pour moi qui ai trop de charme. C'est qu'elles me veulent toutes les Luronnes. Elles se battraient pour se disputer mes faveurs. Eh bien, ce parti pris vous honore. Vous avez le goût bon, mesdames. N'est-ce pas, Laurent?
Monsieur le comte sait parfaitement que son premier valet de chambre est aussi son esclave.
Toi aussi? Eh bien, pour la peine, je te donnerai la Paquita quand j'en serai lassé. Oh, monsieur... On ne t'impatiente pas, ça ne saurait tarder.
Vous irez donc demain soir?
Oui, j'irai quand même. Ne serait-ce que pour découvrir où elle va me recevoir. Dans un taudis? Dans un bouge, peut-être. Ah, comme ça me dépayserait. Ce serait comme faire un voyage chez les Hurons. Mais d'abord, allons souper. Et puis, au jeu. Risquons de grosses mises. Nous verrons bien.
Pourquoi regarder ce salon misérable? Est-ce que cela compte? C'est pour me voir que vous êtes venu. Et vous me voyez?
Vous êtes encore plus belle dans ce voluptueux peignoir que dans vos robes de promenade. Ce peignoir laisse libre votre corps adorable. À chacun de ses mouvements, il y a comme une lumière autour de vous.
Je vous plais autant qu'aux Tuileries?
Je suis trop ébloui pour faire des comparaisons. Mais à coup sûr, vous m'attirez encore davantage. Je n'avais distingué que vos yeux d'or, vos cheveux, votre taille, votre petit pied cambré. Et maintenant, je découvre vos oreilles, si roses, si bien ourlées, votre teint de camélia si blanc, si uni, si transparent. Comment peut-on vivre et posséder un teint pareil?
C'est le secret des femmes que l'on tient cachées.
Vous sortez pourtant.
Si rarement, et toujours si bien gardées, que je ne peux me réchauffer au soleil. Plus je vous contemple, plus mon étonnement grandit. Aux Tuileries, j'avais cru être le jouet d'une illusion. Je vous retrouve ici, et mes yeux me disent que je ne me suis pas trompée. Oui, c'est à s'y méprendre.
De quoi parlez-vous, belle Paquita? Quelle est cette méprise?
Rien qui vous intéresse. Cet émerveillement ne concerne que moi.
Me direz-vous quand même, cachotière, pourquoi cet appartement vous ressemble si peu? Toutes ces pièces humides, nauséabondes que j'ai traversées, ces vieux meubles, ces draperies passées, cette prétention à l'élégance alliée à tant de crasse, tout ça pour vous trouver enfin comme une idole de jade, égarée dans la tanière d'un brocanteur.
N'avez-vous pas lu Cendrillon? Ne savez-vous pas que d'un coup de baguette, on change une citrouille en carrosse et un rat en cocher? Adolphe, il faut renoncer à comprendre, si vous m'aimez.
Je renonce à tout pour vos yeux d'or. Il s'en échappe des étincelles qui mettent le feu à tout ce bric-à-brac qui m'enflamme, moi aussi. Je me sens devenir un autre homme. M'avez-vous touché d'un coup de baguette?
Oui, sans le savoir, peut-être. Moi non plus, je ne savais pas tout à l'heure à quel point je vous aimais.
Il n'y a plus que vous, vous seul. Le reste est fantasmagorie de haillons. Décidez, commandez, j'obéirai.
Alors prenez-moi dans vos bras.
Quoi? Devant cette vieille femme? Elle me terrifie.
Elle ne s'en ira pourtant pas.
Mais vraiment, elle restera sur ce canapé, muette, figée? Il n'y a que ses yeux qui bougent. Elle a des yeux de harpie.
C'est la seule femme en qui je puisse mettre ma confiance. Et pourtant, elle m'a déjà vendue.
Vendue? Vous vous moquez de moi?
Mon cher Adolphe, cette femme est ma mère. Une esclave achetée jadis en Géorgie pour sa rare beauté. Vous jugez de ce qui en reste. Rien. C'est une ruine monstrueuse. Mais vous pouvez parler devant elle, elle ne comprend que le tcherkesse. Vous voyez, elle s'agite. Elle devine que nous parlons d'elle. Mais elle s'agite en vain.
Vous l'aimez?
Oh non. Comment pourrait-on aimer ce débris? Elle n'a qu'une passion, le jeu. Elle m'a vendu pour avoir de l'or. Elle l'a perdu depuis longtemps dans les tripots.
Et votre père?
Je ne l'ai pas connu. Je n'ai connu que mon père nourricier, ce mulâtre qui vous a amené ici et qui m'est plus dévoué qu'une âme damnée. Il s'appelle Christemio. Il vit toujours allongé devant ma porte, comme un chien. Mettez-le dans vos intérêts. Nous aurons encore besoin de lui.
Il m'a jeté de ses regards.
Il vous hait. Il ne vous sert que pour m'obéir.
Ainsi, Paquita, avec ce gardien mulâtre et cette mère sans cœur, nous ne serons donc pas libres.
Jamais. Nous avons même peu de jours à nous. 1, 2, 3. Oui, nous avons 5 jours.
Et après?
Après? Oh. Après, je ne sais pas.
Vous déraisonnez, Paquita.
Ne vous ai-je pas demandé tout à l'heure de renoncer à la raison?
Mais ce mystère qui vous entoure et dont vous jouez...
Je ne joue pas, je risque ma vie.
Ces poignards levés sur nous dont Christemio m'a menacé ne sont pas de la rhétorique?
Ils ne sont que trop réels. Vous ne savez quel danger j'affronte pour vous.
Oui, je devine. Vous craignez la colère de celui qui vous a acheté. Ce nabab, ce sultan possède assez de richesses pour acquérir ce qui est sans prix. Votre beauté, les plaisirs qu'elle promet, que vous êtes seul à promettre et à donner... Mais où est-il que je le provoque? Nous nous battrons et je le supprimerai. Ah, Paquita, je sens que je perds l'esprit. Je te veux à moi seul. Si tu ne dois pas être à moi seul, c'est toi que je tuerai.
Oh, sainte Vierge, où me suis-je fourrée?
Oh, ne pleure pas, ne brouille pas ces regards dorés qui font ma béatitude. Mais pense qu'un homme comme moi ne partage pas. Ce que j'aime, je le prends et je le garde. C'est mon bien, et nul n'a droit de regard sur ce qui m'appartient. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que je t'aime. Ma Paquita, sois à moi.
Tu veux donc me tuer?
Moi te tuer? Paquita, sois à moi dès ce soir, à l'instant. Suis-moi, ne me quitte pas. Suis-moi, je le veux. Paquita, m'aimes-tu? Viens, viens.
Mon Dieu, c'est la même voix et la même ardeur.
De qui parles-tu?
De mon rêve. Oui, je t'aimerai, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai donné trop peu d'opium à Concha. Elle pourrait se réveiller, je serais perdue. En ce moment, toute la maisonnée me croit endormie dans ma chambre. Demain soir, sois au même endroit. Dis le même mot au même homme. Christemio te conduira où il faut. Adieu, mon amour.
Tes joues, tes lèvres, tes lèvres.
Va-t'en maintenant.
Tu me dis de m'en aller. Et tu me retiens, Paquita.
Je ne sais plus ce que je dis. Va-t'en. Je t'aime.
Va-t-elle tarder? Ce serait le comble. Maintenant que j'aime et que j'aime pour la première fois. De quelque origine que soit Paquita et même une esclave vendue à un pacha par une mère esclave, elle devient une déesse si un dieu s'éprend d'elle. Et je suis comme un dieu. Je possède le privilège de magnifier tout ce que je touche. Paquita est plus qu'une dame, plus qu'une reine. Elle est celle dont je suis secrètement épris.
Enfin, voici la voiture. Cortejo.
Monsieur, si vous voulez monter, il faut consentir à vous laisser bander les yeux.
Ah non, jamais!
Adieu.
Arrêtez! Arrêtez, j'accepte!
Ce foulard de soie appartient à ma maîtresse. N'essayez pas de me tromper. Je suis armé et ma main n'a jamais tremblé. Tendez votre tête et laissez-moi faire un nœud qui résiste à votre curiosité.
Mais que signifient ces mystères? Paquita se défie-t-elle de moi?
Je n'ai pas à répondre. Ma maîtresse m'a donné des ordres, je les exécute. Ce n'est pas à moi de supposer, de juger, d'essayer de comprendre.
Mais enfin, vous l'aimez!
C'est justement pour cela que je lui obéis. Je suis son père nourricier, mais plus encore son esclave, son chien soumis.
Pourquoi parlez-vous tant?
Pour vous empêcher de compter les rues devant lesquelles on passe. Vous empêcher de savoir si nous allons vers la Seine ou sur les hauteurs de Montmartre.
La colère m'a ôté toute faculté d'attention. Jamais on ne m'a traité avec cette désinvolture.
Vous êtes un seigneur, monsieur. Mais il vous faudra encore apprendre et supporter beaucoup de choses si vous voulez aimer.
Ah non, pas de morale. De la contrainte, soit, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais une leçon, vous n'y songez pas.
Comme vous voudrez, monsieur. C'était pour vous préparer à la nouvelle épreuve.
Marot, tu te moques de moi?
Non, monsieur, je ne plaisante jamais. Les hommes de mon pays ne savent pas ce qu'est l'ironie.
Et quel nouvel affront va-t-on m'infliger?
Quand nous serons arrivés, le cocher et moi, nous vous prendrons à bras le corps et nous vous porterons jusqu'au pied de ma maîtresse.
Et tu t'imagines que je vais me laisser faire?
Si vous ne me donnez pas votre parole, je vous reconduis là où je vous ai pris.
Je suis donc entre tes mains, comme un otage.
Il faut se fier à moi, ou vous ne verrez jamais votre idole. Est-ce que le cœur vous manque?
Non, coquin. Et dans toute autre circonstance, tu verrais ce qui t'en coûterait.
Je sais, monsieur, je sais. Mais en ce moment, vous obéissez, j'obéis. Nous sommes tous les deux sous sa loi. Mais nous sommes arrivés. Ne faites pas de résistance. Ne dites pas un mot. Sinon, j'ai là mon poignard.
Paquita! Enfin, ce bandeau a failli me rendre fou de colère.
Il le fallait bien, mon amour. Je souffre de ces contraintes autant que toi. Mais maintenant, plus rien ne nous sépare. Parle sans retenue, aime-moi sans crainte. Ce salon ne laisse échapper aucun son. On peut y assassiner quelqu'un? Ces plaintes seraient aussi vaines que s'il se trouvait au milieu du désert.
Et qui donc a si bien compris la jalousie?
Ne me questionne jamais là-dessus.
Et si je voulais savoir qui règne ici?
Laisse-moi enlever ta cravate. Je veux sentir sous mes doigts la naissance de ton cou.
Ce n'est donc pas moi qui règne ici. Je veux être seule là où je suis. Tu m'entends, Paquita?
J'ai déjà entendu ces paroles, cet accent.
Pour qui me prends-tu donc? Répondras-tu?
À quoi bon te répondre avec des mots? Tiens, je te donne ce poignard. Aime-moi comme les hommes savent t'aimer. Et pendant que je dormirai, tue-moi. Ou plutôt, non, ne me tue pas. J'aime la vie. Je vivrai avec le souvenir de tes lèvres.
Tu parles par énigme, Paquita. Je ne comprends rien à ta nature, ni à tes mystères. Mais tu es belle dans ce vêtement blanc. Les fleurs d'oranger qui ornent tes cheveux sentent si fort. Ta peau est si douce, si lumineuse. On dirait que tu es faite de lumière. Je veux t'aimer. Et toi,
M'aimes-tu ?
Si tu savais ce que je risque pour toi, tu ne me poserais pas la question. Veux-tu me plaire, mon amour ?
Je ferai ce que tu voudras, même de retourner en voiture un bandeau sur les yeux. Et je ferai aussi ce que tu ne voudras pas.
Alors laisse-moi t'arranger à mon goût. Mets cette robe rouge. Ces dentelles sur ta tête. Là, comme ça. Plus en arrière. Et jette ce châle sur tes épaules. Tu as l'air d'un oiseau. Tu me ressembles.
Autant qu'un moineau gris à un oiseau des îles. Mais n'importe. Pour te plaire, je veux bien poser pour une autre personne.
Je ne sais ce que tu dis. Dans tes bras, j'ai déjà tout oublié. Tu es mon maître. Je t'adore comme une esclave adore son maître. Fais de moi ce que tu veux. Adolphe, emmène-moi au bout de la terre, dans une île où personne ne nous retrouve. Que notre fuite ne laisse pas de traces. Mais on nous poursuivrait jusqu'en enfer. Oh, tu me fais mourir.
Ne te torture pas. Abandonne-toi au plaisir.
Tu m'as blessée, mon bien-aimé. Comment pourrais-je cacher que je ne suis plus la même ? Oh, la vengeance, sainte vierge, je n'échapperai pas à sa vengeance. Adolphe, protège-moi. Où es-tu ?
Je suis ici, près de toi. Que désires-tu de plus ?
Emmène-moi cette nuit même, n'importe où. Quand tu seras lassé de moi, abandonne-moi. Je ne me plaindrai pas, je te laisserai partir. Mais si je reste ici un jour de plus, je suis perdue.
Je ne puis quitter Paris, ma petite. J'y ai des obligations que tu ne connais pas. Mais je peux te faire dans Paris un asile où nul pouvoir humain ne t'atteindra.
Oh non, tu te trompes. Tu oublies le pouvoir féminin.
Qui pourrait arriver jusqu'à toi si je me mets entre toi et le monde ?
Le poison. Déjà la duègne te soupçonne. Il est bien facile de voir que je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même ni dans mon corps ni dans mon âme. Maintenant que j'ai saigné, j'ai d'autres yeux, une autre bouche.
Tu étais vierge, Paquita, et pourtant tu n'étais pas innocente.
Oh, je supplierai, je pleurerai, je me défendrai, je me sauverai peut-être.
Qui donc imploreras-tu ?
Silence. Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut-être à cause de ma discrétion. On m'a appris à te haïr, mais tu es ce qu'il y a de plus beau sous le ciel. Oh, tu ignores à quel point je suis ignorante. Depuis l'âge de 12 ans, je suis enfermée sans voir personne. Je ne sais ni lire ni écrire.
Comment se fait-il donc que tu reçoives des lettres de Londres ?
Mes lettres ? Tiens, les voici. Déchiffre-les si tu peux.
Mais ce sont des rébus, des signes bizarres et qu'on dirait tracés avec...
Oui, avec du sang.
Paquita, tu es sous la puissance d'un génie infernal.
Infernal.
Mais comment t'a-t-on laissé sortir ?
C'est de là que vient tout le mal. J'ai menacé la duègne des pires tortures si nous n'allions aux Tuileries. Je voulais voir ce qu'étaient ces jeunes gens qu'on me décrivait comme des monstres. Car je ne connais d'homme que le marquis de San Real, Cristemio, mon père, le cocher et les valets qui sont des vieillards.
N'es-tu pas fière d'être aimée ainsi ?
Non, je n'aime plus cette vie cachée. Elle n'est que ténèbres en comparaison de la lumière.
Qu'appelles-tu la lumière ?
Toi, mon bel Adolphe. Avant, je ne comprenais rien à l'existence, rien à la passion. Mais aujourd'hui, je sais comment nous nous aimons et pourquoi il faut aimer. Jusqu'à présent, j'étais aimée, moi je n'aimais pas. Maintenant, je quitterai tout pour toi. Emmène-moi.
Tu n'auras pas de regrets.
Pas un seul, même si tu me laisses ensuite comme un jouet.
Et tu quitteras ce somptueux hôtel, ses robes, ses bijoux, ce merveilleux boudoir rose et doré, ses marbres.
Ces cristaux, cette richesse à profusion répandue.
Tout, je quitterai tout pour toi. Pourvu que tu m'aimes quelques mois, un mois seulement.
Je t'offrirai une vie encore plus luxueuse.
Oh, je n'ai besoin de rien.
On te traitera comme une idole.
Je veux être traitée comme une femme aimée et qui aime en retour.
Je me découvre moi-même depuis que je te connais. Je ne savais pas que je pouvais être comme un enfant avide de caresses et comme un homme heureux de posséder.
Alors toi aussi, tu commences une vie nouvelle et tu la commences avec moi. Oh, Adolphe, nous sommes pareils.
Pourquoi n'irions-nous pas à Sorrente ou en Sicile, passer toute notre vie? Veux-tu, Paquita?
À quoi bon dire veux-tu? Ai-je une volonté? Je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi. Mais moi, je choisirai l'Asie.
Tu as raison. Allons aux Indes où la terre n'a que des fleurs, où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc, où les oiseaux chantent l'amour.
Et où l'on meurt ensemble. Mais ne différons pas, partons tout de suite. Emmenons Christemio.
Mais pour aller en Asie, mon enfant, il faut beaucoup d'or. Et pour avoir de l'or, il faut arranger ses affaires.
Quelles affaires?
Mais tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais quitté ce salon.
Tu veux de l'or? Mais il y en a où comme ça dans la maison?
Il n'est pas à moi.
Qu'est-ce que ça fait? Si nous en avons besoin, il faut le prendre.
Il ne m'appartient pas.
Appartenir? Ne m'as-tu pas prise? Quand nous l'aurons pris, il nous appartiendra.
Oh, ma pauvre Paquita, tu ne sais rien de ce monde.
Non, mais voilà ce que je sais, cela suffit. Oh, donne-moi tes joues, donne-moi tes lèvres.
Mon amour...
Oh, Mariquita.
Mariquita... Je sais maintenant ce que je ne voulais pas croire. Je vais t'étrangler avec cette cravate que tu as dénouée tout à l'heure. T'étrangler, tu m'entends?
Oh, Christemio, viens vite!
Maîtresse, je suis là.
Protège-moi. Oh non, ne lui fais pas de mal. Il est en colère et je ne sais pas pourquoi. Maîtrise-le, laisse-le se calmer, reprendre peu à peu ses esprits. Adolphe, regarde-moi. Pourquoi voulais-tu me tuer, mon amour? T'aurais-je déplu? Parle.
Maîtresse, veux-tu que je fasse parler cet homme?
Non, pas de violence. Oh, mon bien-aimé, ne me laisse pas sans un adieu d'amour. Oh, ces regards de haine, de mépris. Mais vas-tu parler à la fin? Christemio, va-t'en. Je veux être seule avec lui. Bien. Veux-tu me répondre maintenant? Dans ce cas, tu peux me tuer. Si ma mort peut te faire plaisir, tue-moi. Je te tends ce poignard.
Et Christemio m'abattra dans l'escalier. Tu as en cet homme un véritable ami.
Oh, je te le donnerai si tu veux. Il te servira avec le même dévouement qu'il a pour moi.
Je ne veux rien recevoir de tes mains.
Oh, tu ne m'aimes plus. Je sens que plus jamais je ne pourrai te faire revenir vers moi. À quoi bon tout le reste si je n'ai plus ton cœur? Adolphe, dis-moi au moins une bonne parole. Voici le jour. Nous allons nous séparer. Nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Oh, dis-moi un mot. Prononce encore une fois mon nom. Oh, tu ne veux pas. Adieu, mon amour. T'avoir si longtemps attendu. Et te perdre si vite. Jamais plus je ne serai heureuse. Christemio.
Maîtresse.
Il faut reconduire monsieur. Non, le bandeau est inutile. S'il ne m'aime plus, s'il me hait, tout est fini pour moi.
Il faut que je me venge. Cette fille s'est jouée de moi. Tu sais très bien qu'on ne se moque pas de Marseille.
Je ne discute pas les services que me demandent mes amis. Mais je ne sais pourquoi, en t'entendant parler d'elle, je me suis intéressé à cette fille aux yeux d'or.
Si le cœur t'en dit, mon cher.
Il ne s'agit pas de cela. J'ai l'impression qu'elle t'aime comme jamais personne ne t'aimera.
Et que m'importe, puisqu'elle m'a blessé comme jamais je n'avais imaginé qu'on pût le faire. Ne sens-tu pas, Gratien, qu'elle m'a bafoué dans mon honneur d'homme?
C'est précisément ce qui m'inquiète. Elle n'a pas voulu t'outrager. Si cette malheureuse tombe tout à l'heure sous tes coups, elle mourra sans savoir pourquoi.
Elle n'a pas besoin de savoir. C'est moi qui ai ressenti l'offense et qui suis juge du châtiment. J'étais son dieu. Elle a proféré un mot sacrilège. C'est comme attenter à ma vie.
Mais quel mot? Depuis 5 jours que nous mettons au point notre expédition à l'hôtel San Réal, tu me parles sans cesse d'un outrage, d'un mot, sans me dire lequel.
Gratien, es-tu mon ami? Ne me le demande jamais. Le déshonneur ne regarde que moi. La marquise et Paquita peuvent bien se conduire comme elles le veulent. Je ne condamne ni approuve. Ça ne me touche pas. Ce qui me touche, ce qui me déchire, ce qui réclame vengeance, c'est d'avoir été choisi, moi, Marseille. Avoir été choisi, préféré même, et n'avoir éveillé que le souvenir. Jamais je ne pardonnerai.
Alors son arrêt de mort est signé. Pauvre fille. Je commençais à l'aimer. Ah, voici la petite porte du jardin San Réal. J'ai toutes les clés qu'il faut.
Oh, je reconnais l'odeur du jardin, les buis, les résédas.
Henri, nous sommes trahis.
Et par qui, mon bon Ferragus? Toute la maisonnée est gavée d'opium.
Ils ne dorment pas tous. Il faut que quelqu'un n'ait ni bu ni mangé. Tiens, vois cette lumière.
D'où vient-elle? Regardons le plan de la maison.
Je n'ai pas besoin de plan pour le savoir. Elle vient de la chambre de la marquise.
Elle sera sans doute arrivée de Londres aujourd'hui. Ah, cette femme m'aura volé jusqu'à ma vengeance. Mais si elle a tué Paquita, mon bon Ferragus, nous la livrerons à la justice.
Écoute, écoute donc. Je crois la chose en train de se faire. Tous ces gémissements.
Dieu, d'où proviennent ces cris? Paquita?
Ta marquise n'a pas pensé que les sons sortiraient par le tuyau de la cheminée.
Attends-moi dans le jardin, je connais l'escalier et le chemin du boudoir. Je veux voir comment se traite leur querelle de ménage. Par le nom de Dieu, elle a fait cuire à petit feu. Oui, se tournant. Encore se tournant. Puis c'est la troisième porte. Oh, tout ce sang. Peut-on voir tant de sang sur les tentures, sur les meubles? Paquita!
Trop tard, mon bien-aimé. Tu arrives trop tard.
Paquita, retiens ta vie, défends-toi.
C'est fini pour moi. Adieu. Je t'aime.
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré chez moi?
Lâchez ce poignard. Quoi, ce sang partout, le sang de Paquita ne vous fait pas horreur?
De quel droit me parler sur ce ton? Dieu, quelle ressemblance. On pourrait nous confondre. Je crois en vous voyant me regarder dans un miroir. Pour l'amour du ciel, dites-moi le nom de votre père.
Lord Dudley.
Lord Dudley est aussi mon père. Pauvre Paquita. Oh, je comprends tout.
Elle était fidèle au sang.
Elle n'était pas coupable. Oh, je voudrais pouvoir te ranimer. J'ai eu tort, pardonne-moi, Paquita. Tu es morte, je vis, moi. Je suis la plus malheureuse.
J'arrive à temps pour toi, ma sœur. La justice va fourrer son nez dans nos affaires.
Non. Une seule personne pouvait demander compte de cette fille, c'est Cristemio. Il est mort.
Et sa mère?
Je l'ai achetée une première fois pour aimer sa fille. Je l'ai achetée une seconde fois pour la tuer. Elle n'a qu'une passion.
Oui, le jeu, je sais. Mais va-t-elle t'aider?
À effacer les traces du bref passage sur la terre de la pauvre Paquita? Oui. Elle m'y aidera. Il n'y a que l'or qui compte pour elle.
Tu peux avoir quand même besoin de moi, ma sœur. Je t'écris mon adresse sur ce carnet.
Nous nous reverrons bientôt.
Non. Non, mon frère, nous ne nous reverrons jamais. Je retourne en Espagne. Pour entrer au couvent de Los Dolores.
Au couvent? Tu es encore trop jeune et trop belle, Mariquita.
On n'entre pas au couvent pour oublier, mais pour se souvenir et pour expier.
Adieu, Mariquita. Donne-moi ta main, que j'y dépose un baiser.
La voici. Adieu. Rien ne peut nous consoler d'avoir perdu ce qui nous semble être l'infini.
La fille aux yeux d'or, par Marcel Schneider, d'après Honoré de Balzac. Michel Auclair était Henri de Marsay, Lolé Bellon, Paquita Valdès, Daniel Hivernel, Honoré de Balzac, Renaud-Marie Delacroix, Sylvia Montfort, la marquise de Saint-Réal, Jean Péméja, Laurent, Jacques Fayet, Manerville, René Clermont, Ferragus, Robert Liensol, Christémio, et Lucien Barou. Avec dans les autres rôles Roland Bourdin, Annick Fougery, Georges Frontec, Bernadette Lange, Tristani. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Françoise Brochard. Bruitage, Jean Berriac. Assistant, René Albach et Louis Boson. Réalisation, Guy Delaunay.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 15 mai 1963.